Merci d'écouter RFI, 5h en temps universel, 7h à Paris et à Rome.
RFI Matin.
On commence avec le journal. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Après le choc, Martin, place au recueillement un petit peu partout sur la planète.
Des fidèles par milliers en Argentine, en Australie, à Cuba et à Rome. Bien sûr, au lendemain de la mort du pape François, le souverain pontife a succombé à un AVC à l'âge de 88 ans. Un pape singulier et engagé pour le climat ou pour Gaza, vous l'entendrez. RFI qui se mobilise tout au long de la matinée. Ne manquez pas notre grande édition spéciale dans un peu plus d'une heure. Dans ce journal, nous serons aussi à Jérusalem où le bras de fer se poursuit devant la Cour suprême entre Ronen Bar et Benjamin Netanyahou, le chef du Shin Bet, limogé le mois dernier par le Premier ministre israélien. Au Burkina Faso, une nouvelle tentative de déstabilisation déjouée, tandis qu'Haïti est proche du point de non-retour, estime la rapporteure des Nations Unies. Enfin, Gaëtan fêtera le printemps au musée avec l'exposition David Hockney 25 qui célèbre les belles couleurs du peintre anglais à la Fondation Louis Vuitton.
Premier cierge, première prière pour le pape François.
Que cela soit à Buenos Aires, à Melbourne, à Bangui et bien sûr à Rome, la planète entière qui se recueille, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas pleurent. Le pape François mort hier à l'âge de 88 ans des suites d'un AVC, fait savoir le Vatican. En Argentine, un deuil national d'une semaine a été décrété et à Rome, sur la place Saint-Pierre, les fidèles ne s'en remettent pas, eux qui avaient pu l'apercevoir quelques instants dimanche à l'occasion de Pâques. Ils ont afflué par milliers hier donc pour lui rendre hommage. Reportage de notre envoyé spécial Daniel Valo.
For me, Pope Francesco is a pastore, una grande guida.
Pour Inès, le pape François était un guide spirituel auquel cette habitante de Rome voulait absolument rendre hommage sur la place Saint-Pierre. Vincent, lui, est un habitant de Nantes, venu à Rome pour les fêtes pascales. Ce dimanche, il a pu voir le souverain pontife pour sa toute dernière apparition publique.
Il était très marqué au niveau du visage, avec des vraies marques, un regard relativement vide. Il a fait une bénédiction sur quelques mots, donc il avait beaucoup de mal à parler. Il y avait vraiment cette perception de quelqu'un vraiment très très diminué. Donc c'était quand même un choc.
Un choc partagé par Thaïs et son amie, deux brésiliennes, venues à Rome pour les vacances et qui saluent chez François un pape ouvert et progressiste.
Son travail avec les pauvres, son solidarité, et vraiment d'être un pape progressiste. Il a essayé de faire les changements dans l'église et c'est vraiment admirable.
À la tombée de la nuit, sur la place Saint-Pierre, des petits groupes se forment. Certains prient, d'autres chantent. Tous veulent prolonger le plus tard possible ce premier moment de recueillement et d'hommage. Daniel Valo, Rome, RFI.
Les obsèques du pape François qui devraient avoir lieu entre vendredi et dimanche. La date doit être communiquée ce matin après une première congrégation générale qui aura lieu dans 2 heures. Les cardinaux qui auront ensuite la très lourde tâche d'élire son successeur dans les prochaines semaines.
Et cette question désormais, Martin, quel héritage laissera le pape François?
En tout cas, les hommages sont unanimes et saluent un messager d'espoir et d'humanité comme le fait le patron de l'ONU, Antonio Guterres. Les dirigeants du monde entier ont réagi au Canada. Le Premier ministre Mark Carney parle d'un homme d'une grande clarté morale, au courage et à la compassion sans bornes. Le président brésilien Lula salue lui un pape qui a porté avec empathie la cause du climat, un pape singulier, proche des gens. Se souvient lui Lionel Messi, la superstar du foot mondial, qui le remercie d'avoir rendu le monde meilleur. Tu vas nous manquer, écrit-il sur son compte Instagram, accompagné d'une photo avec Jorge Mario Bergoglio, devenu souverain pontife en 2013. Et puis à Buenos Aires aussi, les fidèles se sont rassemblés, lui qui avait été archevêque de la ville de 1998 à 2013. Le pape François, qui s'était aussi illustré pour son soutien aux Palestiniens et qui avait reconnu dès 2015 l'État de Palestine. François qui n'a cessé durant ses 12 années de pontificat de dénoncer la situation humanitaire des Gazaouis, une situation dramatique et ignoble selon ses mots. Il avait renouvelé ses appels à la protection des civils, notamment des enfants, Gaza, dont François prenait des nouvelles tous les soirs puisqu'il appelait quotidiennement l'église de l'enclave, comme nous le dit Munter Isaac, pasteur palestinien de l'église luthérienne de Bethléem.
Pour nous, Palestiniens, sa solidarité et son attention sincère à la Palestine ont commencé bien avant la guerre à Gaza. En 2014, lorsqu'il est venu visiter Bethléem, nous n'oublierons jamais cette scène iconique lorsque le pape est sorti d'un coup de sa voiture et est allé prier contre le mur de séparation. C'est un moment qui a touché chaque Palestinien. Depuis la guerre à Gaza, il s'est toujours exprimé dans un langage fort et clair, décrivant ce qui se passe comme quelque chose de cruel, comme de la terreur. Dans un livre, qu'il a écrit. Il a même demandé une enquête pour savoir si les actions israéliennes doivent être considérées comme un génocide. Pour moi, c'est extrêmement important, encore plus au moment où la plupart des leaders religieux sont restés silencieux ou bien se sont cantonnés à un langage diplomatique neutre qui mentionnait les deux camps de manière égale, sans nommer les choses par leur nom. Le fait qu'il n'a jamais arrêté d'appeler l'église de Gaza dit aussi beaucoup de choses. Il s'en souciait, il les appelait constamment pour être certain qu'ils allaient bien. Il parlait en leur nom, il a élevé leur cause. Il va énormément manquer à la population de Gaza.
Des propos recueillis par Alice Froussard, l'engagement du pape François pour Gaza, pour le climat, pour les plus démunis, pour les migrants, mais aussi ses nombreux voyages en Afrique et toutes les réactions mondiales. On y revient avec vous, Gaëtan Plenet, juste après ce journal, RFI qui se mobilise ce matin, édition spéciale également à suivre à partir de 6h, temps universel, autour d'Andréane Mellard et de ses invités. Nos reportages et toutes les réactions à la mort du pape François, également à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr.
Dans le reste de l'actualité ce matin, le bras de fer qui se poursuit en Israël entre Ronen Bar et Benjamin Netanyahou.
Et le chef du Shin Bet, le renseignement intérieur israélien qui a été limogé par le gouvernement de l'État hébreu. Et il met directement en cause le Premier ministre devant la Cour suprême. Ronen Bar qui affirme que Benjamin Netanyahou avait demandé de sa part une loyauté personnelle. Mensonge, répond le bureau du Premier ministre. On fait le point avec Michel Paul en direct de Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Michel, les réactions qui sont très fortes ce matin en Israël.
Oui, et le terme qui revient le plus est celui d'acte d'accusation en règle présenté par Ronen Bar, le directeur du Shin Bet, c'est le service de renseignement intérieur israélien. Alors, pour l'opposition israélienne, c'est un véritable j'accuse qui a été présenté par cet homme que le Premier ministre israélien tente de limoger, tandis que le bureau du Premier ministre est aussi dans les rangs des partis de la coalition gouvernementale, on affirme que le document présenté sous serment par Ronen Bar n'est qu'un tissu de mensonges, qu'il s'agit même d'une véritable tentative de coup d'État. Il faut préciser que la déclaration présentée par Ronen Bar à la Cour suprême comprend également une partie confidentielle, et c'est là que se trouveraient les preuves des accusations qu'il a avancées. Pour les médias ici ce matin, c'est beaucoup plus qu'un nouveau bras de fer entre Netanyahou et Ronen Bar. C'est une véritable déclaration de guerre, titre le quotidien d'opposition Haaretz. Ronen Bar doit rester en place, estime l'éditorialiste du journal. Yair Lapid, le chef de l'opposition, affirme lui que la preuve est faite que Benjamin Netanyahou présente un danger pour la sécurité du pays.
Merci beaucoup Michel Paul, en direct de Jérusalem sur RFI.
Il est 5h07 à Ouagadougou, plusieurs officiers de l'armée arrêtés au Burkina Faso.
Sur fond de rumeurs de coup d'État, le ministre de la Sécurité qui affirme qu'une tentative de déstabilisation a été déjouée par les services de sécurité. Des officiers ont été arrêtés la semaine dernière et on apprend désormais que certains responsables religieux et responsables coutumiers ont été contactés pour convaincre des militaires de s'associer à ce projet de coup. L'assaut du palais présidentiel était prévu le 16 avril dernier, une nouvelle tentative qui est une œuvre en tout cas de soldats déserteurs. Certains seraient désormais en fuite vers la Côte d'Ivoire, considérée comme leur centre d'opération, Lisa Fabian.
Tout est parti de l'interception de plusieurs communications entre un officier des forces armées burkinabé et des chefs terroristes, explique le ministre de la Sécurité. L'enquête a révélé un grand complot contre le Burkina Faso dans le but de semer le chaos total afin de placer le pays sous la tutelle d'une organisation internationale, souligne le ministre de la Sécurité. L'officier Abdraman Bari, en service au bataillon de la justice militaire, est accusé d'avoir fourni des informations sensibles aux terroristes, que ce soit sur les positions des forces de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie et des opérations militaires, afin d'accentuer les attaques en vue de susciter la révolte contre les autorités burkinabées. Un groupe de soldats devait lancer un assaut contre la présidence le mercredi 16 avril dernier, mais l'opération a été dénoncée par d'autres militaires et VDP, fait savoir le commissaire Mahamadou Sana. Plusieurs officiers ont été interpellés, mais d'autres sont en fuite vers la Côte d'Ivoire et le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, affirme maintenant le ministre burkinabé de la Sécurité.
Explication signée Lisa Fabian du service Afrique de RFI.
Haïti proche du point de non-retour.
Et il y a urgence avant que la situation ne soit irréversible. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché hier sur le dossier haïtien. La représentante onusienne sur place craint que sans réaction ni aide de la communauté internationale, Haïti ne s'enlise encore un peu plus dans le chaos. Correspondance à New York, Karine Auton.
Le rapport trimestriel de l'ONU que venait présenter sa représentante en Haïti hier est sombre. 85% de Port-au-Prince sont désormais contrôlés par les gangs. L'autorité de l'État pourrait s'effondrer sous peu. Ces deux derniers mois, 60 000 Haïtiens ont été déplacés, plus de 1 000 ont été tués. L'ambassadeur haïtien à l'ONU pointe les liens entre gangs, narcotrafiquants et trafiquants d'armes. L'organisation recommande d'augmenter les soutiens au personnel de sécurité haïtien sans délai. Maria Isabel Salvador.
Haïti a atteint un tournant. Nous approchons d'un point de non-retour. Alors que la violence des gangs continue de s'étendre à de nouvelles régions du pays, les Haïtiens sont de plus en plus vulnérables et sceptiques quant à la capacité de l'État à répondre à leurs besoins. Haïti pourrait être confronté à un chaos total et vos réponses rapides pourront contrer une telle détérioration.
Mais voilà, alors que sous l'administration Biden, les États-Unis et le Canada avaient pris la tête du financement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, et qu'ils avaient peiné à rassembler un soutien solide pour envoyer la totalité des forces kenyanes nécessaires, l'ambassadrice américaine a redit hier que les États-Unis de Donald Trump ne pouvaient pas continuer à supporter un fardeau financier aussi important. Karine Otton, New York, RFI.
On termine au musée pour célébrer le printemps.
Le printemps que personne ne pourra annuler sous titre de la nouvelle exposition à la Fondation Louis Vuitton du peintre britannique David Hockney qui expose plus de 400 œuvres très colorées à la peinture au fusain ou à l'encre, toujours très colorées, du coup des œuvres numériques même, des productions qui retracent les 25 dernières années de travail de l'artiste, mais aussi un retour aux sources pour celui qui a commencé sa carrière dans les années 50, Sophie Torlotin.
Figure du swinging London des années 60, David Hockney devient célèbre une décennie plus tard lorsqu'il vit en Californie et expose ses peintures figuratives de l'hédonisme américain au bord des piscines. À sa demande, ce sont surtout les toiles des 25 dernières années qui sont exposées à la Fondation Louis Vuitton.
Dans le cas de David Hockney, ces 25 dernières années correspondent vraiment à une période d'une créativité intense.
Magdalena Gemra, l'une des commissaires de l'exposition.
David Hockney étant un peintre figuratif, l'exposition est construite autour de séries de portraits et des paysages.
Paysages printaniers éclatants de couleurs de la campagne anglaise ou de la Normandie où il fut confiné pendant la pandémie de Covid. Fait inédit, c'est la première fois qu'un artiste vivant occupe tout l'espace de la fondation.
Il est venu 5 fois, il amène des amis et c'est très touchant de du coup pouvoir reconnaître des gens de ses portraits, se balader dans l'espace de l'exposition. Je trouve ça assez extraordinaire, c'est l'histoire de l'art vivant qu'on observe aujourd'hui à la Fondation.
David Hockney s'est toujours renouvelé et à 87 ans, son œuvre n'est pas achevée. Il travaille sur une nouvelle série dans son atelier londonien.
Sophie Torlotin du service culture de RFI, David Hockney 25, c'est à vous. Jusqu'au 1er septembre à la Fondation Louis Vuitton, mais pour l'instant, on va reparler de la disparition du pape François avec vous, Gaëtan Péné.
Absolument, c'était le journal de Martin Gaza tout à l'heure, Martin. RFI Matin, on est ensemble jusqu'à 10h, heure de Paris, avec Andréane Mellard et l'ensemble de la rédaction de RFI. Mardi 22 avril 2025, ça c'est la date du jour, mais celle que l'on attend désormais, c'est celle des obsèques du pape François. Normalement, ce sera entre vendredi et dimanche, mais il faut attendre que les cardinaux le confirment. Ils sont convoqués ce matin pour une première congrégation générale. L'émotion est toujours très vive chez les catholiques du monde entier qui pleurent la disparition d'un pape qui a notamment marqué les esprits par son combat pour les migrants, mais qui affichait aussi d'autres positions plus conservatrices, notamment concernant l'interruption volontaire de grossesse à laquelle il était opposé. Autre combat de son pontificat, celui en faveur de l'environnement. Il était d'ailleurs surnommé le pape vert et s'était beaucoup impliqué dans ce dossier, on va y revenir. Et puis on parlera aussi de l'après, puisqu'un conclave va se tenir. Ce sera aux cardinaux de choisir le prochain chef de l'Église catholique et parmi ceux qui vont voter est Monseigneur Dieudonné Zapalainga, archevêque de Bangui. Il sera l'invité de la rédaction africaine tout à l'heure avec à Christophe Boisbouvier. Lui, ce sera son premier conclave à l'archevêque de Bangui. Alors, il nous en parlera et puis il reviendra aussi, évidemment, sur l'héritage de François. Nous, dans quelques minutes, on sera à Notre-Dame de Paris à la rencontre des touristes. Stupeur, évidemment, après l'annonce de la disparition du souverain pontife. Une messe s'était organisée hier soir. Il y en aura une autre ce matin. Et puis, cette édition spéciale à partir de 6h10, temps universel, avec Andréane Mellard et ses invités. Pour revenir en longueur sur l'héritage du pape François qui s'est donc éteint hier à l'âge de 88 ans. Voilà le programme RFI Matin, c'est parti. Et l'an dernier, le pape François avait fait le plus long voyage de son pontificat. C'était en Asie du Sud-Est et en Océanie. En Indonésie notamment, il avait été accueilli comme une véritable rockstar. Pas de passage cette fois-là aux Philippines, l'un des pays les plus catholiques du monde, mais il était déjà venu là-bas quelques années plus tôt, alors forcément l'émotion est vive. Des milliers de Philippins se sont réunis hier pour prier ensemble. Nemo Lecoq James, vous êtes notre correspondante à Manille. Dans le pays, le pape François était une figure adulée par tous.
Tous, ou presque, oui, l'archipel est composé en très grande majorité d'une population catholique extrêmement pratiquante. Et les Philippins adorent le pape François. Il n'est pas rare ici de voir des portraits de lui affichés dans les foyers, imprimés sur des t-shirts. On lui donne même un surnom affectueux. Les Philippins l'appellent Lolo Kiko, ce qui veut dire grand-père François. Alors, pourquoi un tel attachement? En fait, le pape a eu une influence dans la vie religieuse du pays ces dernières années. C'est lui qui a nommé, par exemple, 4 des 10 cardinaux historiques des Philippines. Et ici, les cardinaux ont un rôle important qui va bien au-delà de la religion. Et puis les Philippins se rappellent aussi de sa visite, il y a 10 ans, qui les a beaucoup marqués.
Oui, en 2015, c'était juste après le passage du typhon Haiyan, la plus grosse catastrophe qu'aient connue les Philippines.
Oui, il est venu seulement quelques jours ici, mais la population a été très touchée et très marquée par ces mots. Le pays vivait l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Le typhon Haiyan a fait plus de 6000 morts et des centaines de disparus. Le pape s'est rendu au centre de l'archipel, à Tacloban, dans la province la plus touchée par le cyclone. Et sous une pluie battante et des vents violents, il avait apporté son soutien aux familles des milliers de victimes. Depuis hier d'ailleurs, la vidéo de son discours est devenue complètement virale sur les réseaux sociaux. Les Philippins sont encore très reconnaissants et très touchés qu'il ait fait le déplacement il y a 10 ans.
Alors il n'y est jamais revenu après, c'était la seule fois. Pour autant, Nemo, même sans venir directement, il avait une véritable influence sur la vie religieuse et même politique de l'archipel.
Alors oui, par son ouverture d'esprit et ses initiatives progressistes, il a soutenu et encouragé les défenseurs des droits humains ici aux Philippines. Il a par exemple apporté du soutien à l'un des plus hauts responsables de l'église du pays, qui recevait des menaces et des moqueries pour avoir osé s'opposer à la guerre contre la drogue menée sous la présidence de Duterte. Mais il a aussi appelé à l'action sur la crise climatique, à laquelle les Philippines sont particulièrement exposées, à l'inclusion des femmes dans l'église ou encore à la reconnaissance des couples homosexuels. Dans un pays où l'église a un rôle moral et politique aussi important qu'aux Philippines, le rôle du pape François a donc été majeur. Il reste désormais à voir qui lui succédera. L'un des favoris est d'ailleurs un Philippin, Luis Antonio Tagle. Il représenterait un choix symbolique en tant que premier pape asiatique.
Merci Nemo Lecoq James, correspondante de RFI à Manille.
RFI Matin, Gaëtan Plenet.
Et la mort du pape François s'étale évidemment en une de la presse française ce matin. Adieu François, titre sobrement Le Figaro, avec une large photo du souverain pontife devant un grand ciel bleu, la basilique Saint-Pierre en arrière-plan. Le pape s'est éteint le matin du lundi de Pâques, comme s'il avait voulu mener l'église jusqu'à la résurrection, peut-on lire au début de l'éditorial. Perdimus papam, titre pour sa part Libération, avec une première page cette fois en noir et blanc, François de dos. Son pontificat a été engagé sur les pauvres, les migrants et l'écologie, écrit le quotidien, mais décevant quand même sur les questions sociétales, car il a été notamment un farouche opposant à l'interruption volontaire de grossesse, rappelle l'Humanité, qui opte quand même pour une référence religieuse moins critique en guise de titre. Au nom de la paix, des migrants et du Saint-Esprit, il était le pape du peuple, rappelle pour sa part aujourd'hui en France. Pas de phare dans la nuit du ciel parisien cette nuit. La tour Eiffel était éteinte en hommage au pape François. Des hommages, il y en a évidemment eu beaucoup hier à la cathédrale Notre-Dame de Paris où des centaines de touristes et de fidèles se sont rassemblés. Certains ont voulu assister à la messe de 18h ainsi qu'à la veillée organisée jusqu'à minuit. Un reportage de Sylvie Coffi.
Messieurs, dames, il n'y a plus de visite pour aujourd'hui. C'est uniquement la prière et la messe pour le pape. No more visit today.
Sur le parvis de Notre-Dame, une employée au parleur à la main lance en boucle ce message pour informer le public. Les fidèles sont en deuil, ils ont encore du mal à réaliser.
C'était un choc pour moi. Et donc, comme j'habite pas très loin en plus, donc je me suis dit c'est le moment de venir dans la nouvelle Notre-Dame qui a été restaurée pour un moment de recueillement et de prière. Voilà.
Comme lui, la mort du pape François a surpris de nombreux touristes. C'est le cas de cette jeune Espagnole.
Je pense à un moment symbolique. On est très touché et il fallait être ici pour dire au revoir au pape François, que je pense que pour beaucoup de gens et surtout des jeunes Il nous a permis de nous rapprocher au christianisme.
Dans la file d'attente, Anquette, originaire de l'île Maurice, est venue plus d'une heure à l'avance pour assister à cette messe et se recueillir.
Prier pour le pape. Comme on visite Paris, c'est pour aussi venir apporter notre prière pour le pape François. C'est quand même touchant et tout. Il est venu à l'île Maurice en 2019. Donc ça nous touche, nous les Mauriciens. Et comme c'est une figure emblématique, et justement on est là pour ça. Parce qu'il avait une belle approche pour les jeunes et pour les personnes qui sont marginalisées et tout. Donc on espère que le prochain pape suivra le même parcours.
Sous la pluie, certains abandonnent.
Non, on a vu qu'il y avait pas mal de monde et puis on n'est pas forcément de confession catholique à la base. On a voulu passer, on aurait aimé rentrer à l'intérieur quand même pour faire un petit tour et puis voir le portrait du pape installé à l'intérieur, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui.
Il est 18h, des centaines de fidèles suivent l'homélie qui résonne dans la cathédrale.
Rendons grâce pour la personne que fut le pape François, pour le ministère qu'il a accompli parmi nous. Demandons à Dieu de donner à son Église la grâce de l'unité. Implorons l'Esprit-Saint pour qu'il ne cesse de nous conduire sur les chemins que le pape François nous trace. Amen.
Encore sous le choc, cette famille toulousaine est très émue.
C'était très beau, très émouvant.
En tant que chrétien, c'est vraiment un jour qu'on n'oubliera pas.
Ça m'a touché, quoi. Je ne pensais pas que je pourrais assister à une telle messe en son honneur dans une telle cathédrale.
Les hommages continuent et certains fidèles se préparent pour la veillée.
Il y aura une troisième messe pour le pape François ce matin à Notre-Dame de Paris. C'était un reportage de Sylvie Coffi du service France de RFI. Et depuis hier et l'annonce de sa mort, on parle évidemment beaucoup des combats qui ont été ceux de son pontificat. Combat pour les plus pauvres, combat pour les migrants, aussi pour la paix bien sûr et pour l'écologie également. Bonjour Florent Guignard.
Bonjour.
Pour notre question d'environnement du jour sur RFI, cette question c'est la suivante. Florent, pourquoi le pape François était-il surnommé le pape vert?
Alors pour être tout à fait exact, Gaëtan, pape vert, c'est aussi un surnom donné à son prédécesseur, Benoît XVI. Et avant lui, d'autres chefs de l'Église catholique, Jean-Paul II, Paul VI, avaient exprimé leur préoccupation pour l'avenir de la Terre, l'œuvre du Créateur, avec un C majuscule. Benoît XVI considérait comme un péché la destruction de l'environnement. Et il avait installé des panneaux solaires au Vatican.
Mais le pape François, lui, est allé plus loin.
Oui, pas seulement parce qu'il a engagé le Vatican sur la voie de la neutralité carbone, qu'il a créé une ferme écologique, ou que ces derniers mois, il roulait en papa mobile 100% électrique. Non, le grand tournant que prend l'Église catholique sur l'écologie, c'est la publication en 2015 d'une encyclique entièrement consacrée au climat et à l'environnement, Laudate Si, où il développe le concept d'écologie intégrale. Les questions environnementales, sociales, politiques et économiques sont liées. Un discours qu'il vient appuyer quelques mois plus tard à la tribune des Nations Unies. Le changement climatique, dit-il dans un anglais un peu vert, est un problème qu'on ne peut plus laisser aux générations futures. Nous sommes en septembre 2015.
C'est-à-dire quelques semaines avant la COP21 organisée à Paris.
Le grand sommet mondial sur le climat, en effet, c'est cet agenda que le pape François a en tête. François Hollande, d'ailleurs, l'en remercie. Le 12 décembre 2015, l'accord de Paris est signé, l'accord historique pour tenter de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, tout au plus à 2 degrés. Les prises de position du pape François ont-elles pesé? C'est la conviction du journaliste français Dominique Lang, journaliste à Pèlerin. La publication de l'encyclique écologique Laudate Si ne doit rien au hasard.
Il a été publié 6 mois avant la COP21 avec une prétention presque explicite de toucher les cœurs et les consciences des responsables politiques de l'époque. Et on a vu que probablement ça fait le travail, puisque un certain nombre de ces responsables ont remercié, au moment de la signature de la COP21, ont remercié le pape François d'avoir publié ce texte.
Voilà, le pape François, acteur de la diplomatie climatique.
Et pour la COP28, à Dubaï, cette fois en 2023, eh bien il remet ça.
Oui, quelques mois avant Dubaï, il publie un nouveau texte. Et s'il renonce à se rendre physiquement à la COP28 pour des raisons de santé déjà, François met les pieds dans le plat de pétrole émirien. Dans un message envoyé à la COP, il appelle à l'abandon des énergies fossiles. C'est une première, en fustigeant.
des négociations internationales qui ne peuvent pas avancer de manière significative en raison de la position des pays qui mettent leurs intérêts nationaux au-dessus du bien commun général.
Et Florent, est-ce qu'il était un pape radical ?
En tout cas, Gaëtan, ces mots n'étaient pas ceux du libéralisme économique. Hein, contre la finance, les multinationales, l'égoïsme des pays riches, la surconsommation. On va écouter le témoignage d'une de ses biographes, Francesca Ambroghetti.
C'est tout à fait nouveau. Pour lui, abîmer l'environnement, c'était comme abîmer l'humanité, accroître les injustices. Je me souviens d'une de ses phrases à ses débuts. Il souhaitait dire les mêmes choses que l'on entendait habituellement, mais avec un mégaphone.
François, le pape au mégaphone qui soutient la désobéissance civile, qui encourage Greta Thunberg, la militante du climat, qui apporte aussi son soutien aux militants qui luttent contre le projet pétrolier de Total en Ouganda. Alors oui, François était un pape vert et un peu rouge aussi.
Merci Florent Guignard. C'était notre question environnement du jour sur RFI. La mort du pape, on y revient évidemment dans le prochain journal. Dans 5 minutes, ce sera l'actualité africaine. Et puis on y revient aussi longuement dans cette édition spéciale dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sera à 6h10, temps universel, avec Andréane Mellard, à l'occasion de parler de ce qui va se passer dans les prochains jours, le calendrier, la date de ces obsèques que l'on attend, la date aussi du conclave qui sera chargé de nommer le futur souverain pontife. Mais d'abord un petit peu de musique, c'est dans notre playlist du mois sur RFI, l'haïtien Michael Brun, DJ de 32 ans qui habite à Miami, et ce titre Touchdown, le fruit de plusieurs années de travail avec l'idée d'illustrer en musique les séries éliminatoire de la Ligue professionnelle de football américain. Et pour ça, eh bien, il s'entoure plutôt bien de plusieurs stars internationales, J Balvin, Vinnie Man, Tazan ou encore Bounty Killer. Voici Touchdown sur RFI. Touchdown from dawn, yeah. See me alone is gone, yeah. Everybody want come on, cause them see me with the dividend, the dollar them. Touchdown soy yo, bajando me de un maquinón. Touchdown, hot girl me like her, she no like clone. Table look like NFL draft, no throne, no dollars on bone. She wind and go down, got the sandy, got up and grown, yo. We live the life of luxury, yeah, yeah, yeah. She back it up like a chop for me, yeah, yeah. Pool her at the pool bar at my home, showing money like Patrick Mahomes. So you know I touchdown from dawn, yeah. See me at dawn is gone.
Que esa es una cicarga. Oh, oh, oh. Y solo baila con la amiga. Sabe que está dura, no hace falta que le digan. Tú estás jugando en otra liga. Y todo el que la ve le grita. Oh, oh, oh. Tiene la cuenta al día. Sabe que está dura, no hace falta que le digan. Tú estás jugando en otra liga.
Touchdown from dawn, yeah. See me and dawn is gone, yeah. Everybody wanna come on, cause it's me with the dividend, the dollar them.
Touchdown soy yo, bajándome de un maquillón. Todo el mundo sabe quiénes son, porque aquí sobran los dividend, yeah, yeah.
Yo. Mi money no bank balance it up, y'all a clap it and a bend it and a balance it up. From me stepping at the party, the place get life. VIP, champagne, a Hennessy, a popo.
Touchdown, Michael Brun, c'est dans notre playlist du mois sur RFI. Restez avec nous, le journal consacré à l'actualité africaine. C'est dans moins de 2 minutes, on va revenir notamment sur les différentes visites du pape François sur le continent africain au cours de son pontificat. Merci d'être avec nous sur RFI.
Santé. Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Hey
Aujourd'hui, les maladies chroniques sont souvent vécues comme un fardeau pour les patients. Comment la psychiatrie peut aider à mieux vivre cette épreuve? Demain, la présence de substances dans les eaux usées liées à la consommation de médicaments fait l'objet de surveillance. Comment évaluer les risques sur l'environnement?
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à 9h10 TU sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Pourquoi refaire l'histoire de la domestication?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
L'archéozoologue Jean-Denis Vigne nous entraîne aux origines des domestications animales par les humains sur toute la planète. Chien, chat, vache, chameau, lama ou cheval, qu'est-ce que ça dit de nous et des autres animaux? Qui a domestiqué qui?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.